Bonjour, bienvenue pour le premier numéro de La Clé des Champs. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue au premier numéro de La Clé des Champs, l'émission géographique et écologique de Transistor, en direct ce soir du studio de l'ENS. À nos côtés ce soir, Lucie Perrin-Florentin, membre de l'association Zéro Déchet Lyon, bonsoir.
Bonsoir.
Et Flore Vendier, responsable de l'AMAP et membre du Muro d'Anvers, l'association écolo de l'ENS, bonsoir.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la question du plastique, mais avant je vais vous présenter nos deux invités. Lucie, tu es membre du groupe local de Zero Waste International. Tu fais partie du pôle plaidoyer qui organise des actions de lobbying auprès des politiques de la région lyonnaise et tu es en service civique depuis juin, c'est ça ?
Chez Zéro Déchet Lyon.
Voilà. Et Flore, tu es membre de l'association d'Anvers depuis novembre 2017 et tu es aussi ancienne stagiaire à Ifremer sur la question des microplastiques.
C'est ça.
Alors aujourd'hui, on va se demander avec vous si on peut encore croire à la fin de l'âge du plastique. Mais avant cela, Arthur va nous faire un petit point sur la situation.
Alors que les déchets plastiques envahissent nos sols, nos cours d'eau et nos océans, les gouvernements promeuvent le recyclage comme solution miracle. Sauf que moins de 2% des plastiques usagés sont recyclés idéalement en circuit fermé. Ce mirage éclipse la seule et vraie solution, la réduction de la production de plastique. En juillet dernier, le gouvernement présentait son plan climat. Parmi les mesures, un objectif de 100% des plastiques recyclés à l'horizon 2025. La France, avant-dernière des 28 pays de l'Union européenne en matière de recyclage du plastique, est pressée d'améliorer son piteux classement. Dans le même temps, la Chine, première terre d'accueil de nos détritus plastiques, ferme ses frontières aux déchets étrangers. Des vortex géants de plastique s'installent au cœur de nos océans et comblent de malheur d'invisibles particules de déchets plastiques s'invitent, c'est officiel, dans nos assiettes. Une question se pose dans un tel contexte, le recyclage intensif de ces déchets constitue-t-il vraiment une étape incontournable du déploiement de l'économie circulaire? Ou n'est-ce qu'une couche supplémentaire à notre modèle consumériste, une sorte d'emplâtre sur une jambe de bois? Rappelons d'abord que le plastique constitua dans les années 60 une formidable découverte de la chimie du pétrole. En 1963, deux prix Nobel sont attribués en chimie des plastiques pour la découverte de catalyseurs permettant la polymérisation des polyéthylènes et polypropylènes aujourd'hui couramment utilisés dans les emballages par exemple. Le plastique est devenu depuis une source de richesse, il représente 1,5 million d'emplois en Europe. Il a révolutionné le quotidien dans tous les secteurs, bâtiments, automobiles, électroniques, aéronautiques et surtout alimentation. L'emballage plastique, matériaux légers et peu coûteux, constitue en effet l'élément essentiel de prévention des contaminations extérieures, chimiques ou microbiennes, de préservation de la qualité, de traçabilité des produits et de réduction des pertes et gaspillages, en protégeant les aliments. L'essor de la production de plastique au cours des 50 dernières années ne se dément pas et devrait doubler dans les deux décennies à venir. 300 millions de tonnes sont produites chaque année dans le monde, dont plus de 60 en Europe. L'emballage absorbe la grande majorité des plastiques à courte durée d'utilisation, quelques heures seulement pour l'emballage plastique d'une baguette ou d'un steak haché, qui envahissent de façon consternante nos poubelles. La fin de l'âge du plastique décrite par Yasley et Kuzins dans les années 40 n'est pas pour demain. Aujourd'hui, le plastique providentiel s'est transformé en une bombe à retardement, dont on découvre les effets à long terme sur notre santé et notre environnement. Il est visuellement présent partout autour de nous et tellement répandu dans toutes les couches et tous les compartiments géologiques qu'il est désormais étudié comme marqueur stratigraphique de l'Anthropocène, cette époque géologique post-18e qui se distingue par l'interférence de l'activité humaine avec les cycles naturels. Synthétisés et utilisés massivement depuis une cinquantaine d'années, ces plastiques mettront plus de 100 à 200 ans à se dégrader en micro puis en nanoparticules. Une fois ces tailles atteintes, ce qui se produira massivement dès la fin du 21e siècle, les particules issues des plastiques accumulées auront alors toute latitude pour se répandre très largement et rapidement dans notre environnement et aussi dans tous les organismes vivants. Près de la moitié des plastiques usagés sont dispersés de façon incontrôlée dans notre environnement. 20 à 40% sont regroupés dans des stations d'enfouissement ou, mélangés à d'autres déchets, ils sont temporairement retenus dans des géotextiles, eux-mêmes en plastique. Quand ces derniers seront dégradés, nos plastiques enfouis seront libérés. Au total, plus des 3/4 des plastiques usagés finissent leur vie dans nos terres, nos eaux douces et nos océans. Seuls les plastiques de type bouteille peuvent se plier aux contraintes du recyclage en boucle fermée et être régénérés pour une utilisation identique. Le recyclage du plastique n'est donc pas un sésame pour épargner à notre écosystème terrestre les méfaits potentiels de ces déchets, même s'il peut modestement contribuer à les retarder. Comment expliquer alors que le recyclage soit devenu une mesure phare ? La circularité consiste ici à recycler la valeur économique en créant une économie du plastique usagé. Le monde du plastique se renouvelle, mais son modèle productiviste reste le même. Tenter de résoudre le problème, c'est-à-dire résorber les déchets plastiques accumulés en créant des activités économiques, de la richesse et de l'emploi. L'éco-citoyen se désencombre de sa responsabilité dans la production de son propre déchet en le jetant dans la bonne poubelle au risque d'un aveuglement collectif. Si le tri de nos déchets reste un geste précieux, ne nous laissons pas aveugler par le mirage du tout recyclage qui ne peut résoudre à lui seul le gros problème de gestion post-usage des déchets plastiques. Il n'existe qu'une seule et unique solution, remettre à plat le cycle complet des matériaux plastiques dans un contexte plus général de bioéconomie circulaire, où le devenir des déchets sera un élément clé de nos choix de consommation. Et coordonner nos efforts à l'échelle internationale, car les petites particules de déchets ne respectent pas les frontières. Bref, la solution, c'est la réduction massive du plastique, et pourtant les politiques sont toujours autant orientées vers le tri dans une optique de durabilité.
Alors la question de la durabilité, justement, on en vient avec vous, Lucie et Flore. Est-ce que selon vous, l'enjeu aujourd'hui, c'est de réduire les déchets plastiques dans cette optique, ou de véritablement viser le zéro plastique ?
Alors, on peut partir sur la question de la définition de la durabilité. Donc, en sciences de politique spécialisées dans l'écologie, il y a durabilité forte et durabilité faible. La durabilité faible, c'est celle qui est mise en place aujourd'hui, c'est celle qui postule que la substituabilité des ressources est possible et que la force de l'esprit et du génie humain pourra changer les choses. Chez Zéro Déchet Lyon, et le mouvement Zero Waste en particulier, enfin en général, on pense que cette substituabilité n'est pas possible. Et notamment, elle est nocive parce que le plastique se loge partout. Et il faut savoir qu'en 2050, il y aura autant de plastique que de poissons si on ne fait rien. Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question.
Réduire les déchets plastiques ou supprimer le plastique de nos vies ?
Supprimer le plastique, forcément.
Flore, est-ce que tu es d'accord avec supprimer le plastique de nos vies ?
Je trouve que ça serait une idée fantastique, mais je suis intimement convaincue que c'est impossible. Parce qu'il y a beaucoup de domaines, notamment de haute technologie, où on ne peut pas se passer du plastique. Rien que dans ce studio, imaginez faire ce studio sans plastique, c'est-à-dire tous les fils conducteurs de cuivre sans gaines en plastique, ce qui représenterait des risques énormes pour votre sécurité. Ou alors, rien que dans les ordinateurs, dans les casques, il y a des milliers de composants plastiques. Ou alors, dans d'autres domaines, ne serait-ce que la santé, imaginez un hôpital sans plastique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience dans un hôpital, mais il y a beaucoup de matériel jetable dans les hôpitaux pour minimiser les risques sanitaires. Donc, c'est des domaines où on ne peut pas se passer de plastique.
Alors, c'est très intéressant et je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, le problème du plastique dans les mers, c'est pas les choses qu'on ne stérilise plus mais qu'on jette à l'hôpital en plastique, c'est les emballages notamment. Et les emballages, on peut les éviter. Ils sont substituables par d'autres choses qui sont durables, profondément durables, comme des sacs à vrac, comme des bouteilles en verre. Coca-Cola était à la consigne en verre avant de passer au plastique qui est fantastique, comme dit Léo Ferré, parce qu'il est si léger, si facile à transporter et puis recyclable. Alors, il faut se demander où vont nos déchets. Je me permets de rebondir là-dessus, parce que quand on trie, on fait un geste éco-citoyen, et du coup, il va où notre déchet ? Parce que quand on dit qu'une bouteille, elle est recyclée, en fait, c'est un pourcentage qui est recyclé. C'est pas tout le plastique qui est utilisé pour cette bouteille qui est recyclé. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit, parce que c'est parfois les messages sont réduits. Et donc, quand on fait un geste, quel qu'il soit, il faut savoir où ça va. À Lyon, ça va à l'incinération, à l'enfouissement et au recyclage. Et l'incinération, quelque part, c'est la chose la plus propre, paradoxalement, parce qu'il y a des filtres au niveau des fumées. Et les résidus, ce sont des mâchefers ou qui sont caractérisés comme des déchets très toxiques et donc très contrôlés. Donc voilà.
Alors, si certains domaines ne peuvent pas se passer de plastique, le domaine hospitalier, les technologies de pointe, au niveau individuel, apparemment, on peut lutter contre le plastique, on peut réduire le plastique. Flore, tu es dans une asso étudiante. Concrètement, comment on peut atteindre l'objectif de réduction de plastique lorsqu'on sait que la part de la population en France, en tout cas, qui trie le moins, par exemple, ce sont les étudiants? Comment on sensibilise cette partie de la population?
Il y a énormément à jouer sur les étudiants, parce que ce sera c'est la génération future, c'est celle qui éduquera la génération d'après, et changer la vision de ces personnes-là, c'est changer la population de demain. Et c'est une génération qui est assez sensible, puisque elles ont l'impression d'hériter de la planète. C'est elles qui vont y habiter demain, qui va y habiter demain. Et déjà, il y a un travail très important à faire sur repérer l'utilisation de plastique au quotidien. Il y a des tonnes de déchets donc qu'on voit, les emballages plastiques qui sont assez qu'on peut repérer facilement, et où il y a énormément de médiatisation dessus, mais il y a aussi beaucoup de déchets invisibles, et j'aimerais surtout attirer l'attention sur les cosmétiques, notamment tout ce qui est gommage, ou alors rien que dans le maquillage, toutes les micro, enfin c'est des produits qui sont bourrés de microparticules de plastique qui sont infiltrable, c'est impossible de filtrer ces particules. Elles atterrissent dans les systèmes d'évacuation des déchets et ultimement dans les océans. Ces microparticules de plastique, c'est la menace future, celle dont on ne parle pas encore, puisqu'on parle beaucoup des macro-déchets plastiques qui forment les îles au centre des gyres océaniques, mais 80% d'un échantillon de plastique récolté dans un océan, ce sont des microplastiques qui sont des énormes problèmes. Donc c'est des vecteurs d'espèces invasives qui concentrent des polluants et qui sont ingérés par les organismes marins et ultimement par les populations humaines. Donc rien que réaliser que ne pas utiliser de paillettes pour son maquillage, c'est réduire énormément l'impact des microplastiques sur la biodiversité marine, c'est déjà un pas. On pourrait même considérer comme une victoire, parce que c'est le polluant qui a le plus d'impact, à mon sens, sur l'écosystème marin.
Vive les paillettes en papier. Parce que, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, en fait, chez Zéro Déchet Lyon, nous, on focalise aussi sur comment faire soi-même les choses. Et donc, quand on fait soi-même les choses, les cosmétiques, la nourriture, n'importe quoi, on sait ce qu'il y a dedans. Et donc, un baume à lèvres sans emballage et sans plastique, c'est possible. Et c'est pas cher, et c'est accessible à tout le monde. Et on sait ce qu'il y a. En fait, c'est se réapproprier toutes les fabrications de choses qu'on peut acheter ailleurs, c'est se les réapproprier et en faire quelque chose de sans plastique et donc de sain, et pour que ce soit pour soi, pour sa famille, pour les autres, que ce soit équitable aussi et que ce soit bon pour la planète.
À Anvers aussi, je crois, on fait des ateliers do it yourself.
Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on a eu. On avait à cœur de réaliser. Donc, c'est dans le courant de la semaine prochaine et la semaine suivante. On va inviter des étudiants à faire eux-mêmes leur vaisselle, leur liquide vaisselle, pardon.
Et ça peut aussi aider.
Et faire leur lessive. Parce que, effectivement, c'est très facile de faire de la lessive bon marché, à partir de bicarbonate de soude et d'autres produits qui sont.
Savon de Marseille.
Oui, c'est ça, qui sont accessibles. Et du coup, de réutiliser des contenants en verre, où on est sûr qu'il n'y a pas de problème de migration des particules de plastique dans la lessive et donc dans le système de récupération des eaux usagées. Et surtout, où on a l'impression, on se responsabilise en fait vis-à-vis des ressources qu'on utilise, parce que c'est pas juste quelque chose qu'on achète, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on fait, on a toute cette notion d'économiser ses efforts et de savoir directement ce qu'on utilise, qu'est-ce que ça représente en tant que ressource.
Alors, si on se responsabilise en tant qu'individu grâce à ces projets de faire soi-même, à cette réduction de plastique, est-ce que c'est pas l'État et les grandes entreprises qu'on déresponsabilise en s'appropriant la réduction du déchet ?
Alors, c'est sûr que l'action individuelle est insuffisante, mais elle est indispensable. C'est-à-dire que l'étudiant de l'ENS, d'ailleurs merci de nous recevoir dans votre prestigieuse école, qui va prendre son petit gobelet en plastique et qui aura oublié de prendre son mug parce qu'il a la tête en l'air, eh ben bouh. Donc il faut que les individus fassent des choses, mais il faut aussi qu'on sensibilise nos écoles, on sensibilise nos entreprises, on sensibilise nos métropoles, on sensibilise notre État à la question du plastique et qu'il faut, il y a des choses à éviter, le jetable, le tout jetable, ça on peut l'éviter, on sait le faire, toutes les méthodes de vieille grand-mère, c'est pas un retour à la bougie, c'est juste aller vers un futur souhaitable.
Donc toi, Lucie, tu travailles au pôle plaidoyer. Ouais. Il y a des discussions avec des experts, des acteurs locaux. Donc concrètement, oui. Qu'est-ce qui s'y dit ? Comment vous faites votre lobbying anti-plastique ?
Eh ben, simplement en disant les faits, quoi. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement. C'est un coût qu'il y a sur l'environnement. C'est des externalités négatives qu'on contrôle pas. Donc montrer ça et montrer qu'il y a un win-win qui est possible parce que c'est économique. En fait, le nerf de la guerre, c'est l'argent et c'est économique d'être zéro déchet. Donc allons tous vers le zéro déchet. Il y a la ville de Roubaix qui est la ville zéro déchet en France qui a fait de nombreuses choses pour aider les ménages les plus défavorisés à changer leurs pratiques pour qu'ils se passent de déchets et ça a changé leur vie. Il faut regarder le documentaire qui s'appelle Aux déchets citoyens. Voilà.
Et est-ce que vous sentez qu'il y a une réponse de la part des acteurs que vous sensibilisez ?
Est-ce complètement.
Que... Ouais.
Ils sont tous à
notre
porte. ils nous demandent. On est vraiment politiquement en ce moment. Il y a vraiment la question du plastique. Ça le vend en poupe. Et donc on intéresse les élus notamment parce que on a fait un travail dans toute notre indépendance financière. Et tout ce travail mâché, du coup, il est réutilisable par la métropole et on en est content et on veut que ce partenariat continue, donc qu'il continue.
Alors, je vais vous poser une dernière question par curiosité. Est-ce que vous allez aller à la marche samedi 8 décembre qui demande aux politiques de prendre compte le réchauffement climatique, de prendre des mesures concrètes et rapides pour lutter contre. Est-ce que vous trouvez que ce genre de manifestation est efficace et est-ce que vous allez y aller ?
Malgré mon agoraphobie, oui, je vais y aller parce que c'est important de faire ensemble cette marche, mais c'est pas suffisant, il faut faire autre chose aussi, donc faut pas s'arrêter à la manifestation, faut pas s'arrêter au like, faut pas s'arrêter au truc comme ça, faut faire aussi, mais faut faire d'autres choses.
Moi personnellement je vais y passer aussi parce que je trouve que c'est très important dans un contexte qui est aussi angoissant que le changement climatique pour tous ceux qui se renseignent dessus. C'est important de voir qu'on est plusieurs et qu'on va y arriver et que le fait d'agir ensemble c'est quelque chose qui peut aider les personnes en dépression littéralement à se recentrer sur des objectifs efficaces et se rassurer sur la faisabilité de notre transition écologique.
Et au lieu de faire l'effondrement de nos individus, passons à l'effondrement positif de la civilisation qui nous tourne en rond, en l'évogir. Et donc passons à la beauté de l'effondrement ensemble, avec l'écologie, etc., etc. On a toutes les clés en main. Et c'est la clé des champs.
Merci Flore et merci Lucie pour cette intervention. Arthur, quelque chose, un avis à rajouter sur la question du plastique ?
Ah bah, non, je pense qu'on a vu là bien différents enjeux des plastiques. Après, moi, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur votre travail de lobbying, sur vraiment le terme lobbying. Est-ce que ça vous dérange pas, vous, qu'on...
Alors nous, on ne parle pas de lobbying, on parle de plaidoyer.
Oui.
Et à titre personnel, je fais du soft lobbying.
D'accord, vous parlez de soft lobbying.
Non, il n'y a que moi qui parle de soft lobbying.
Ah d'accord, c'est...
C'est-à-dire simplement être gentil avec les gens qui ont du pouvoir et les comprendre et essayer d'aller dans leur sens et de faire en sorte que ça aille aussi dans notre sens.
Être gentil, est-ce que vous pensez que ça suffit ?
Oui, ça suffit. Amour, lumière, ça suffit. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Non mais...
Alors, il y a la COP24 en ce moment en Pologne. Est-ce que vous pensez que le plastique va y être mentionné ?
J'en sais rien, mais je pense que oui, forcément, puisque ça fait partie des questions écologiques principales.
Vous avez confiance en ce qui peut en ressortir ou vous attendez pas spécialement qu'il y ait des grandes mesures qui soient lancées ?
C'est mal parti, en fait, parce qu'il y a très peu de chefs d'État qui sont présents. Ils ont un peu fait... ils sont allés ailleurs. Enfin, c'est pas un boycott, mais oui. Ils ont...
Ils se sentent pas intéressés.
Voilà, ils sont pas investis dans cette COP-là. Mmh. Malheureusement.
Eh ben c'est bien dommage, heureusement que vous êtes là, en tout cas, en direct sur Transistor pour ce premier numéro de La Clé des Champs. Merci encore, merci Lucie, merci Flore, merci Arthur.
Mathilde, merci Arthur et merci aux deux associations qui sont venues, Envers et Zéro Déchet Lyon. Je passe maintenant la parole à Étienne pour Bonne Pioche.